Nous sommes en 1979 et les Slits viennent de signer avec Island Records pour Cut, leur premier album. Elles ont déjà réalisé une magnifique reprise de I Heard It Through the Grapevine et la suite s'annonce maintenant tout aussi réussie. Elles ont un contrôle artistique total, leur producteur est le génial Dennis Bowell et l'enregistrement se fera au légendaire studio de Rich Farm. Dans des conditions à ce point idéales, rien ne devrait s'opposer à la réalisation de leur album. Oui, mais les Slits ne sont pas un groupe normal, et comme bien souvent avec elles, rien ne se passera comme prévu. Leur manque de technique et leur forte personnalité leur réservent encore en effet de nombreuses surprises. Néanmoins, malgré toutes les difficultés, elles n'abandonneront pas. Elles ne le peuvent pas. En tant que premier groupe punk 100% féminin, elles doivent prouver au monde entier que les femmes aussi peuvent faire du rock. Et elles savent qu'elles en sont capables. Elles ont affronté les mêmes dangers que les Clash et les Sex Pistols, et comme eux, elles se sont exprimées sans jamais renoncer à leur intégrité. Leur album devra donc non seulement être réussi, mais aussi rendre compte de leurs convictions et de leur identité. N'en déplaise à certains, il ne sera pas par conséquent le reflet de jeunes femmes séduisantes, dociles et complaisantes. Car les Slits ne sont tout simplement pas ce genre de filles. Viv Albertine écrit Typical Girls alors qu'elle s'ennuie dans l'appartement de sa mère à Highgate, juste en dessous de Muswell Hills où elle a passé son enfance. L'inspiration lui vient en feuilletant un livre de pseudo-sociologie dans laquelle la fameuse fille typique y est présentée comme susceptible, émotive, hystérique, peu sûre d'elle et préoccupée par son apparence. Tous ces clichés sexistes, Viv Albertine les récupère et les détourne. Elle trouve ensuite un riff de guitare qu'elle répète plusieurs fois pour être sûre de ne pas l'oublier. Comme elle ne sait pas écrire la musique, c'est le seul moyen qu'elle a pour mémoriser ses trouvailles. Heureusement, le lendemain, lors de la répétition, tout va bien. Elle se souvient de la chanson et peut la montrer aux filles. Elles comprennent alors immédiatement ses intentions et participent à leur tour à l'élaboration de Typical Girls. Le résultat est d'une originalité folle. La chanson s'ouvre sur quelques notes inquiétantes et menaçantes, puis se transforme en ronde joyeuse et légère sur laquelle Harry Hop, toujours fidèle à elle-même, dénonce avec toute sa fantaisie et son insouciance cette liste de stéréotypes misogynes. Les Slits ne le savent pas encore, mais elles viennent de produire leur titre le plus célèbre. Le processus créatif à l'origine de Typical Girls est très représentatif du fonctionnement des Slits. Pour elles, le sujet abordé doit toujours être tiré de leur propre expérience. Il est dès lors hors de question de perpétuer les mythes et les mensonges racoleurs avec lesquels elles ont grandi. Dans leur titre, Love and Romance, elles se moquent même d'ailleurs de toutes ces chansons d'amour mièvres et sentimentales. On écoute. À l'écoute de ce morceau, on devine que la fiction n'est définitivement pas la voie de prédilection des Slits. Elles préfèrent la vérité, celle de leur quotidien, de leurs expériences et de leurs conditions de jeunes femmes ordinaires issues de la banlieue londonienne. Mais si en apparence leurs vies peuvent avoir l'air tristes et banales, elles n'en sont pas moins dignes d'intérêt, comme le prouvent d'ailleurs les autres chansons de l'album. Dans Shoplifting et dans Newtown, par exemple, il est respectivement question de vol à l'étalage et de drogue aussi extravagante que la footballine ou la télévisine. Avec Adventures Close to Home, ces deux chansons ont été écrites par Palmolive à l'époque où elle faisait encore partie des Slits. Toutes témoignent de l'aspect très poétique et en même temps très personnel et sincère de leur musique. Cette intégrité artistique a pourtant été plusieurs fois menacée. Mick Jones a par exemple essayé de convaincre Viv Albertine de modifier la rythmique de Typical Girls pour qu'elle soit en quatre temps et donc plus conventionnelle. Il est persuadé qu'ainsi, ce titre pourrait devenir un tube. Mais ce faisant, Typical Girls aurait aussi perdu toute son originalité. Or pour les Slits, c'est impossible. Elles aiment leurs chansons dans toute leur bizarrerie. Typical Girls est donc conservée telle qu'elle et ne connaîtra malheureusement pas un grand succès. Le lien entre Mick et cette chanson ne s'arrête pas là pour autant, puisqu'après sa rupture définitive avec Viv, il répond à Typical Girls avec Train in Vain. Si Viv affirme que les filles typiques restent toujours auprès de leurs hommes, lui répond « Tu n'es pas resté près de moi ». Train in Vain sortira en tant que piste secrète sur le célèbre album London Calling et deviendra pour le coup un tube. Et c'est vrai, Viv n'est pas restée auprès de Mick. Même si elle l'aime sincèrement, être en couple l'aurait amenée à faire des compromis et donc à renoncer à une liberté totale. Or, Viv ne peut pas l'accepter. Elle a besoin d'être libre. C'est d'ailleurs ce désir intransigeant de liberté qui lui permet de persévérer et de s'affirmer malgré toutes les difficultés, notamment lors du mixage de « I heard it through the grapevine ». À ce moment, c'est le grand Dennis Brown qui dirige les opérations. C'est au même titre que Bob Marley, une légende du reggae. En 1979, à l'âge de seulement 22 ans, il a déjà produit 11 albums et plusieurs singles comme No Man Is an Island, Baby Don't Do It ou encore If I Had a World. C'est une star internationale et Viv Albertine l'admire profondément. Son titre Money in My Pocket est d'ailleurs une de ses chansons préférées. Et c'est compréhensible tant elle est irrésistible. Money in my pocket, but I just can't. Avoir Dennis Brown au mixage pour son premier EP est évidemment à la fois enthousiasmant et stressant. Les Slits donnent par conséquent tout ce qu'elles ont. Mais plus le temps passe, plus Viv se rend compte que le grand Dennis Brown n'assure pas. À minuit, elle décide alors de faire appel à Rima, une assistante jamaïcaine du studio d'à côté avec qui elle a sympathisé plus tôt. En quelques heures, elle rattrape le coup et finalise l'enregistrement. De son côté, Dennis Brown s'est barré, absolument pas vexé d'avoir été remplacé par une assistante inconnue. Avec ce changement improvisé, les Slits viennent de prendre un risque énorme qui aurait pu leur attirer de gros ennuis. Mais elles sont prêtes à tout, comme elles le prouvent de nouveau peu de temps plus tard avec Dennis Morris. Dennis Morris est le photographe directeur artistique qu'Island Records vient d'attribuer aux Slits. Il est mondialement célèbre pour ses portraits de Bob Marley et des Sex Pistols, et est aussi d'ailleurs très proche de Johnny Rotten, maintenant redevenu John Lydon. En 1978, ils partent même pendant 3 semaines en Jamaïque dans le but de trouver de nouveaux artistes reggae. Ils passent ce séjour en compagnie de Richard Branson, le patron de Virgin Records. Et c'est d'ailleurs lui, à cette occasion, qui essaiera de faire entrer Lydon au sein du groupe New Wave, Devo. Déjà célèbres pour leur reprise de « I Can Get No Satisfaction » des Stones et aussi leur premier single très controversé « Mongoloid ». On écoute. « L'entreprise rate et peu de temps après à son retour en Angleterre, Lydon crée PIL, Public Image Limited, avec notamment Keith Levin, l'ancien guitariste des Flowers of Romance et des Clash. Dennis Morris travaille sur le logo du groupe et les pochettes des deux premiers albums. Le premier, First Issue, s'inscrit par son esprit survolté et subversif dans la lignée des premières années du punk. Mais le second, Metal Box, sorti en 1979, marque pour le coup un véritable tournant. En effet, dès l'écoute du premier morceau, Albatros, on comprend que plus rien ne pourra être comme avant. Les premières notes de basse résonnent à peine qu'on se retrouve pris au piège dans une ronde angoissante et hypnotisante. Il n'y a plus d'échappatoire, et la violence ne peut maintenant s'exprimer qu'à travers des râles inquiétants et des guitares abrasives. Le résultat est donc grinçant, froid et étrangement hallucinant. Avec les 12 titres de Metal Box, PIL tourne, voire même déchire définitivement la page du punk et des Sex Pistols. C'est aussi en cette année 1979 que John Lydon se marie avec Nora Foster, la mère d'Harry Hope des Slits. Revenons d'ailleurs aux Slits et à leur collaboration avec Dennis Morris. Nous sommes toujours en 1979 et c'est lui qui doit réaliser, comme précédemment pour PIL, les visuels de leur album. Il imagine alors une pochette en plastique rose avec des lacérations et des fermetures éclair et envisage même de commander une machine à vent pour donner un effet sexy lors du shooting. En découvrant ses intentions, Viv Albertine est scandalisée. La vision de Morris ne correspond en rien à l'image des Slits. Viv refuse donc en bloc toutes ses propositions et finit inévitablement par se brouiller avec lui. En représailles, Dennis Morris se plaint de son attitude auprès de la direction d'Island Records. Selon lui, les Slits se porteraient mieux sans Viv. Ces accusations menacent de la faire virer de son propre groupe. Après les Flowers of Romance, l'histoire pourrait se répéter. Heureusement, son producteur, Dennis Bowell, la défend et la rassure. Vive Albertine et les Slits, et sans elle, le groupe ne peut pas exister. Après ces collaborations pour le moins difficiles, les Slits se lancent à la recherche d'un nouveau batteur pour l'enregistrement de leur album. En effet, Max, venu remplacer Palmolive pour leur EP, n'est plus disponible et elles n'ont personne sous la main pour prendre sa place. Elles font donc passer des auditions, mais tous les candidats sont des bourrins sans tact et sensibilité qui martyrisent leurs cymbales. Cependant, alors que les Slits commencent à se décourager, leur sauveur se présente en la personne de Budgie. Il est parfait, il a un toucher léger, un tempo inébranlable et assez de confiance en lui pour encaisser les nombreuses critiques et directions d'Harry Hope, alors à peine âgé de 16 ans. Budgie intègre donc les Slits pour la production de l'album et la première tournée. Sa présence est une véritable aubaine. Il est professionnel, précis, et grâce à lui, l'ambiance des répétitions, habituellement très électrique, s'apaise. Tout le monde est plus concentré et soudé dans le travail. Et puis, en plus, les Slits ont vraiment de la chance d'être produits par Dennis Bowell. Comme elle, il est ouvert d'esprit, curieux et passionné par le reggae et le dub. Rien d'étonnant, puisqu'il n'est ni plus ni moins que le guitariste d'un des plus grands groupes reggae britanniques, Matumbi, rendu célèbre en 1976 par leur reprise de Man in Me de Bob Dylan. On écoute.
The man in me will do almost any task. And as for compensation, there's little that he would ask. It takes a woman like you to get through.
Sous la direction de Bowell, la préparation de l'album se déroule donc à merveille. Au bout d'un mois, les Slits sont prêtes à se rendre à Rich Farm pour l'enregistrement et, cette fois encore, elles ont de la chance. Rich Farm est le cadre idéal pour enregistrer un album. C'est une charmante et grande maison de campagne éloignée des distractions de la ville et tenue par un sympathique technicien lumière répondant au nom de Frank Andrew. Et puis il y a aussi Denise Roudette, la cuisinière qui tous les jours prépare aux Slits des bons petits plats. Grâce à elle, elle mange sainement pour la première fois depuis des années. À Rich Farm, les Slits trouvent donc un certain équilibre, et heureusement, car les sessions d'enregistrement ne sont pas toujours de tout repos. Elles sont d'autant plus compliquées que les Slits n'ont enregistré qu'en live jusqu'à présent. Or là, les instruments sont enregistrés individuellement. Ça commence par Tessa et Budgie, le couple passe-batterie, puis c'est au tour de la guitare avec Viv Albertine et enfin au chant avec Harry Hope. Ce procédé exige un haut niveau technique que les Slits n'ont malheureusement pas. Il faut donc souvent refaire, encore et encore, jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Mais toutes ces répétitions, malgré ce qu'elles peuvent apporter de frustration, de colère et de honte, sont aussi parfois l'occasion de réinventer les chansons, comme ça a été le cas pour Newtown. Pendant plus de 20 prises, Viv Albertine essaie de jouer sa partie en rythme sans jamais y parvenir. Il n'y a rien à faire. Elle est poussée à bout, finit par craquer et se défoule alors sur sa guitare. Mais cette fois, Denise Boyle ne lui dit pas de recommencer. Au contraire, le son obtenu par ce geste spontané, ce tchik-tchik-tchik un peu bizarre qu'on entend tout au long du morceau, est génial. À cela, Denise Boyle improvise sur le moment une série de percussions à partir d'une boîte d'allumettes, d'une cuillère et d'un verre. Voilà, Newtown est terminé et constitue désormais l'un des 12 morceaux de l'album Cut, aux côtés entre autres de Typical Girls, Instant Hit et So Tough. Il ne reste plus maintenant qu'à trouver un visuel pour remplacer les propositions de Denise Morris. Au départ, Viv Albertine pensait utiliser une photo de ses vacances en Europe où elle et les Slits s'apparaissent nus sur une plage. Mais comme cette photo se retrouve mystérieusement endommagée par sa mère, elles font appel à Penny Smith pour prendre de nouveaux clichés. Elle a déjà photographié de nombreuses icônes de la scène rock comme Led Zeppelin ou Iggy Pop. Elle est même à l'origine du cliché de Paul Simonon fracassant sa basse sur scène. Une photo qui sera celle en couverture de l'album London Calling des Clash. Avec elle, les Slits se sentent assez en confiance pour révéler leur côté sauvage et guerrier. Elles se roulent donc au sol, se maquillent façon peinture de guerre et vont même jusqu'à se recouvrir entièrement de boue dans la roseraie de Rich Farm. Un ami de Boyle leur montre à ce moment comment faire des pagnes pour leur donner un côté primitif et intemporel. C'est bon, c'est cette image qui restera. Celle de trois femmes, trois Amazones se tenant droites et fières devant le regard de la caméra. Elles ont beau être presque entièrement nues, elles n'en sont pas pour autant sexy. Au contraire même, elles sont menaçantes et effrayantes. Malheureusement, malgré toutes ces qualités, Cut ne rencontrera pas un grand succès et elles se feront même virer comme des malpropres d'Island Records. Elles parviennent néanmoins à signer chez CBS pour un second album, The Return of the Giant Slits. Denise Boyle est toujours leur producteur et grâce à lui et aux différentes rencontres qu'elles ont pu faire lors de leur tournée, les Slits sont maintenant prêtes à affirmer pleinement leurs goûts musicaux. Elles s'éloignent alors du punk pour se rapprocher du dub et des musiques du monde. Leur morceau d'ouverture, Earthbeat, est un bon exemple de cette nouvelle trajectoire. On y retrouve toute la créativité des Slits, mais cette fois mêlée à des percussions tribales et des sonorités japonisantes. C'est déroutant, très original et complètement fou. Ce deuxième album recevra un accueil plus que mitigé et ne sera même pas distribué aux États-Unis faute de soutien de leur manager. C'est un échec et à cause de cela, les Slits se désagrègent progressivement. Et puis, juste avant de donner un concert au Hammersmith Odeon, le point de non-retour est atteint quand Harry Hope annonce au reste du groupe qu'elle est enceinte et ne compte pas continuer la musique au sein des Slits. Et puis, peu de temps plus tard, Viv retrouve Tessa inconsciente chez elle. Elle ne le sait pas encore, mais son amie vient de faire une overdose aux médicaments. Quand elle saisit enfin la gravité de la situation, Viv appelle les secours et Tessa est immédiatement hospitalisée. Elle restera dans le coma plusieurs jours. Pendant ce temps, Viv lui rend visite quotidiennement alors qu'Harry Hub joue déjà avec d'autres. L'aventure des Slits est bel et bien terminée. Lorsque Tessa se réveille, Viv est là pour l'accueillir. Elles se retrouvent enfin. Malheureusement, elles n'ont pas vraiment le temps de se réjouir. Les Slits n'existent plus et chacune doit à présent tracer sa route. Viv retourne donc chez sa mère, dans son ancienne chambre d'adolescente, celle-là même où elle a écrit Typical Girls. Mais maintenant elle a 27 ans et aucune perspective d'avenir. Sa vie de roqueuse est derrière elle, personne ne l'appelle, les journaux ne s'intéressent plus à elle, et elle réadopte donc un look triste et conventionnel. Fini les cheveux colorés et les fringues provocantes et fun de chez Vivienne Westwood et Malcolm McLaren. Viv Albertine s'est jetée corps et âme dans les Slits et maintenant il ne reste plus rien. La séparation de son groupe est pire que toutes les ruptures qu'elle a vécues jusqu'à maintenant. Pire que le divorce de ses parents ou que son éviction des Flowers of Romance. C'est la mort d'une part d'elle et le deuil est très difficile. Il est même si difficile que Viv en vient à appeler Mick. Ils ont grandi ensemble, ont partagé un même rêve de musique et aujourd'hui, elle a besoin de lui. Certes, ils ont eu des différends, mais malgré tout ça, ils ont réussi à rester proches. Ils passent donc la soirée ensemble, discutent un peu, boivent et s'endorment. Viv ne voulait pas aller plus loin, elle avait juste besoin de compagnie et de se confier à quelqu'un. Le lendemain, il prévoit donc de se revoir dans la journée, mais le moment venu, Mick n'est pas là. Il a tout simplement oublié. Il est passé à autre chose et elle ne peut pas lui en vouloir. C'est un survivant du punk, et contrairement à elle, sa vie de musicien est encore devant lui. Entre rester et partir, il a donc pris sa décision et il est parti. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go sort en 1982. Un an plus tard, Mick Jones sera renvoyé des Clash par Strummer et Simonon à cause de différends artistiques. Les années 80 commencent, le monde est en train de changer et le punk n'y a plus sa place. Ses idéaux ne sont tout simplement plus adaptés car l'important désormais est de trouver un travail, de faire de l'argent et de s'assurer une vie confortable et stable. Tout, y compris la musique, est plus individualiste et carriériste. Il n'est plus question de vouloir changer le monde ou de critiquer le système. Ce basculement d'une période à une autre coïncide non seulement avec la fin du punk, mais aussi avec l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en 1979. Cette année, le parti conservateur qu'elle dirige depuis 4 ans gagne les élections générales et elle accède ainsi au poste de Premier ministre. Cette victoire s'inscrit en réaction aux nombreux troubles économiques et sociaux qu'a connus l'Angleterre tout au long des années 70. Des troubles qui culminent en 1978-1979 avec ce que les Polaroids britanniques ont appelé « l'hiver du mécontentement ». Cette expression, tirée de Richard III de Shakespeare, a servi à désigner l'ensemble des grèves et pénuries qui ont frappé l'Angleterre à ce moment. Les morts n'étaient plus enterrés, les poubelles plus ramassées et de nombreux foyers privés d'électricité. Immédiatement, les syndicats et le parti travailliste alors encore au pouvoir ont été tenus responsables de ces perturbations. C'est cet hiver du mécontentement et son traitement médiatique qui ont aidé les conservateurs les plus radicaux comme Thatcher à imposer ensuite une ligne politique libertarienne et conservatrice stricte. Ce virage politique amène à la privatisation ou à la fermeture de nombreuses industries publiques, à la réduction drastique de dépenses publiques et à l'anéantissement presque total de l'influence des syndicats. En sacrifiant ainsi l'État providentiel britannique, Thatcher vise à redynamiser l'économie. Cependant, la misère ne cesse d'augmenter et si l'on comptait 1,6 million de chômeurs en 1977 sous le gouvernement travailliste de Callaghan, on en compte désormais 3,25 millions en 1985 sous Thatcher. À cela, il faut également ajouter la montée en popularité des idéologies nationalistes et racistes, en partie due à Thatcher qui les relaie très tôt afin de s'attirer les faveurs d'une part de l'électorat d'Enoch Powell et de la British National Front. Ces stratégies politiques renforcent le racisme ambiant, entraînant ainsi d'une part de violentes émeutes entre forces de l'ordre et communautés noires, et d'autre part la radicalisation d'une part de la classe ouvrière blanche. Cependant, suite aux propos xénophobes de Bowie et Clapton, les militants Red Saunders et Roger Huddle créent l'association Rock Against Racism et organisent dès 1976 des concerts à travers toute l'Angleterre pour sauver l'honneur du rock et unifier la jeunesse dans la lutte contre le racisme. Au fur et à mesure, le mouvement gagne en importance et en 1978, grâce à une collaboration avec l'Anti-Nazi League, il parvient à mettre en place des concerts d'ampleur nationale. Le plus célèbre d'entre eux est indéniablement celui du 30 avril 1978. Ce jour-là, 100 000 personnes défilent de Trafalgar Square jusqu'à Victoria Park, où ils découvrent alors sur scène Tom Robinson Band, le groupe reggae Steel Pulse et surtout The Clash, accompagné pour l'occasion de Jimmy Pursey de Sham 69. Les Clash se sont d'ailleurs dès leur début engagés politiquement, notamment à travers leur premier single, White Riot. La lutte contre le racisme se poursuit ensuite à la fin des années 70 avec le retour en force de la musique ska, grâce à des groupes comme The Beat, Madness, Bad Manners ou encore The Specials. Le ska est né au début des années 60 en Jamaïque avant d'arriver en Angleterre où il a vite rencontré un grand succès populaire. Cependant, au fil des années, ses codes et symboles ont été détournés par les skinheads affiliés à l'extrême droite. C'est donc pour se les réapproprier et également lutter contre le racisme que The Specials invite les autres groupes de ska à les rejoindre au sein de leur label Two Tone. Ces deux teintes en français, ce sont évidemment le noir et le blanc, deux couleurs que l'on retrouve dans leur tenue, leur symbole et qui rappellent leur métissage. Un métissage qui est également musical puisque tous étaient aussi bien influencés par le ska, le rocksteady et le reggae, des genres musicaux typiquement jamaïcains, que par le punk et la new wave, des genres pour le coup plus britanniques. Ce métissage culturel se traduit également par de nombreuses reprises de grands classiques de la musique jamaïcaine, comme a pu le faire The Specials avec Rudy A Message To You de Dandy Livingstone, Monkey Man de Toots and the Maytals ou encore Too Hot de Prince Buster. Mais tout de suite, je vous propose d'écouter The Beat et son morceau Stand Down Margaret, soit en français, Démissionne Margaret. démissionne Margaret, oui, mais Thatcher n'est pas du genre à se plier aux exigences de ses détracteurs, qu'ils soient musiciens, ouvriers ou politiciens. Loin de là même. Pour elle, la politique n'est pas une affaire de compromis ou de négociation, mais une lutte acharnée où la plupart de ses adversaires sont des criminels qui méritent d'être condamnés. Et qu'ils soient des Malouines, d'Irlande du Nord ou d'Angleterre, tous ceux qui s'opposent à elle font face à une dirigeante brutale et froide. En 1981, par exemple, elle laisse mourir 10 prisonniers républicains nord-irlandais alors en grève de la faim. Elle n'a pas peur de s'attirer les foudres de la presse et de l'opinion publique. Elle est inflexible et est prête à tout pour lutter contre ses ennemis. Pour elle, ceux-ci ne sont d'ailleurs que des terroristes ou des criminels. Tenter de s'opposer au pouvoir est donc totalement vain. Avec Thatcher, l'anarchie que chantaient les Sex Pistols n'est définitivement plus d'actualité, et l'Angleterre est de nouveau gouvernée d'une main de fer, celle d'une femme. Heureusement, Thatcher n'est pas le seul modèle de femme forte. Il y a les Slits, bien évidemment, mais également d'autres grandes artistes, comme Polystyrene des X-Respects.
Some people think little girls should be seen and not heard, but I think... Oh, bondage! Up yours! One, two, three, four!
En 1977, quand Polystyrene chante « Oh Bondage, Up Yours », elle n'a que 20 ans et encore des bagues aux dents. Elle est jeune, pleine d'énergie, et avec sa voix stridente et son look atypique, elle ose s'attaquer à toutes les attentes et injonctions de la société. Et en plus de Polystyrene, il y a aussi la ténébreuse et intimidante Siouxsie, qui dirigera jusqu'en 1996 son groupe Siouxsie and the Banshees, rejoint par ailleurs dès 1979 par Budgie. Ils produiront ensemble de nombreux hits très new wave typiques du style post-punk, comme Hong Kong Garden ou Happy House par exemple. Il faut également mentionner ici le groupe des Raincoats. Ce groupe est né en 1977 après que leurs fondatrices, Anna Da Silva et Gina Bridge, aient assisté à un concert des Slits. En voyant Viv et ses amis sur scène, elles prennent conscience qu'elles aussi peuvent avoir le courage de s'exprimer et de faire de la musique. Ce lien de parenté entre ces deux groupes se renforce avec l'arrivée de Palmolive au sein des Raincoats après son éviction des Slits. Leur premier album, sobrement intitulé The Raincoats, se démarquera par sa reprise très décomplexée et rafraîchissante de Lola des Kinks. Lola est l'histoire de la rencontre d'un jeune homme et d'une mystérieuse possible femme transgenre dans un club de Soho à Londres. Ce sujet coïncide parfaitement avec la volonté des Raincoats de bousculer l'ordre établi. Les Raincoats, Siouxsie Sioux, Polystyrene, les Slits, toutes ces artistes défendent la place des femmes dans le rock. Et même si leur musique n'est pas toujours bien reçue ou techniquement au point, leur influence est indéniablement considérable. Elles deviennent notamment dans les années 90 la principale source d'inspiration du mouvement des Riot Girls. Comme leur aînée, les Riot Girls relaient la parole des femmes avec toute l'énergie et la fougue du punk. Avec elles, aucun sujet ou problème n'est passé sous silence et le rock'n'roll se conjugue de nouveau au féminin.
Hey
c'était Double Daria de Bikini Kill, probablement le groupe le plus emblématique du mouvement des Riot Girls avec Bratmobile et Evans to Betsy. Le punk féminin n'est donc pas juste un effet de mode. Au contraire, c'est une révolution culturelle qui s'inscrit dans le temps et inspire et inspirera de nombreux militants et musiciens, comme entre autres Kurt Cobain ou plus tard les Pussy Riot. Notre histoire pourrait s'arrêter là, avec l'influence du punk et surtout de toutes ces femmes qui ont osé prendre un micro ou une guitare pour s'exprimer. Cependant, Viva Albertine n'en a pas fini avec la musique. En effet, au début des années 2010, presque plus de 30 ans après la dissolution des Slits et après avoir été prof d'aérobic, mère au foyer et réalisatrice à la BBC, elle reprend sa guitare, se met au chant et se produit dans des pubs de sa petite bourgade des Hastings dans le sud de l'Angleterre. Le retour sur scène est difficile, mais Viv s'accroche et produit finalement en 2012 son premier album solo, The Border Vermilion. Elle y explore dans un style direct, drôle et léger les affres et désillusions de son quotidien de mère au foyer, comme par exemple dans l'envoûtant Confession of a MILF. Depuis la sortie de son premier album solo, Viv Albertine a joué dans Exhibition de Joanna Hogg et a également publié deux ouvrages autobiographiques, intitulés « De fringues, de musique et de mecs » et « À jeter sans ouvrir ». Par son parcours et son œuvre, elle aura prouvé que le punk en tant que musique mais aussi style de vie n'est en aucun cas exclusivement masculin. Et il n'est pas non plus résumable, comme on peut le penser bêtement, qu'au sexe, aux drogues et à la violence. Être punk, c'est en réalité bien plus que ça. C'est une façon d'être qui va au-delà des genres et des époques. Être punk, pour reprendre la définition du journaliste rock britannique John Savage, ça ne se décrète pas. Ça se vit, concrètement, sans différer, sans l'aval de quiconque, par l'engagement et par l'action, avec l'autonomie et l'indépendance pour horizon, l'émancipation pour élan et l'autodétermination pour tout bagage. En cela, la culture punk est bien davantage qu'une musique. Elle ouvre des possibilités, dresse des perspectives, donne du sens, offre un mode d'existence positif, encourage la créativité. Fin de citation. Il n'y a donc aucune raison de croire que le punk est mort. Il y aura toujours des jeunes, des fous et des rêveurs pour oser s'exprimer, défier les interdits et inventer d'autres futurs. Et aujourd'hui, presque plus de 50 ans après la naissance du mouvement punk britannique, c'est peut-être de ça dont nous avons le plus besoin. C'était le dernier épisode de Viva Albertine, itinéraire d'une punk. Si vous souhaitez poursuivre encore un peu l'aventure, je vous invite à me rejoindre sur Facebook ou Instagram. J'y publierai les vidéos, articles et livres qui ont servi à l'élaboration de cette série, ainsi que les différentes musiques utilisées. Je vous recommande également chaleureusement de vous procurer les livres de Viva Albertine. Ils sont vraiment passionnants et pour tout vous dire, c'est eux qui m'ont donné envie de réaliser cette série. Voilà, pour le moment c'est tout pour moi. Je vous remercie et vous dis à très bientôt. Ciao !